moment où les Ishu Mati vous présente, mais ce n'est pas une surprise pour vous, Madame Chebel et son livre Changer l'islam. Et par conséquent, si vous êtes là si nombreux, c'est que vos préoccupations résonnent avec l'immensité de ce sujet. L'immensité et les surprises de ce sujet comporte, puisque l'islam, on a des préjugés vis-à-vis de ça, on ne voit pas tellement changeant, on ne pas changer dans le bon sens. Donc, j'ai beaucoup de questions à poser à Mme Chebel, ça se verra au cours de la conversation que l'on fait des cours. Mme Chebel dit qu'il est de taille à répondre à tout ça parce que c'est deux formations ici à dire, parce qu'il n'y a pas de doctorat dans des domaines.
Et d'ailleurs, l'islam n'a pas besoin de faire de prosélytisme. Une grande religion n'a pas besoin. n'a pas besoin de se défendre et de se faire aimer. Si c'est une contradiction, elle a par définition tous les ingrédients nécessaires pour se faire apprécier. Donc, mais je dis, il n'est pas normal que l'islam, grande religion comme elle est, soit dédonné de savoir.
C'est bien connu qu'il n'y a que des petites religions qui envoient des missionnaires.
Oui, on les appelle des sectes. Ce sont les sectes, justement. Je crois que la différence entre une secte et une religion, c'est qu'une secte est cantonnée à un nombre défini de d'adeptes, et au-delà, ça devient une religion. Et jusqu'à peu du contraire, on n'a pas encore vu, si vous voulez, une secte changer de nature, quel que soit le nom de ses adeptes, et une grande religion changer de nature, quel que soit le nom de ses adeptes.
Je repose la question dans cette question, car prenons quelque chose qui existe dans l'islam, mettons dans la relation matrimoniale, il y a une inégalité de la très forte, la réputation par exemple, la polygamie, est-ce qu'il faut renforcer ces choses-là et en faire la loi de islamique, j'avais dit islamiste, c'est intéressant d'ailleurs, je dis presque là-dessus sur une question, ou bien est-ce qu'il faut au contraire abandonner les contraintes et qui nous sont secondaires dans la religion.
Oui, si vous voulez parler de la réputation et de la polygamie, ce sont des choses très très minoritaires en islam. La réputation, évidemment, à mes yeux, c'est une importance quand on parle, elle est refusée d'entrée de jeu, d'avance et par principe. En revanche, le divorce, lui, est accepté. Si vous voulez, quand on dit on refuse la réputation, c'est le fait arbitraire, c'est l'autorité d'un partenaire du couple qui décide pour lui-même de répudier l'autre partenaire. Ça, c'est refusé, que ce soit la réputation de l'homme et de l'homme par rapport à son épouse, ou de l'épouse par rapport à son
homme.
Le divorce est désormais intégré dans la plupart des codes civils d'un certain nombre de pays. On vit peut-être le pays le plus anachronique qui soit. Je continue encore à penser que la réputation est un mode opérationnel satisfaisant. Mais dans la plupart des codes personnels et des constitutions civiles et des régimes matrimoniaux de plus en plus forts, dans les grands pays musulmans, c'est le divorce qui a été dessus depuis longtemps. Pour ce qui est de la polygamie, c'est à peu près pareil, puisque la polygamie est un régime matrimonial ancien, archaïque, et reconnu comme tel, d'ailleurs, dans la plupart des théologies. Aujourd'hui, on ne dira jamais que pour être un bon musulman, il faut avoir quatre femmes. C'était valable naguère, du temps au 7e siècle, dans l'Arabie ancienne, pas seulement l'Arabie, il y a plus de 300 quartiers de l'époque, où vous trouvez le même principe chez les juifs, le même principe chez les chrétiens, les chrétiens primitifs, si vous voulez, vous avez le même principe. La polygamie était un principe largement répandu. Je trouve que comme l'islam est la dernière religion monothéiste, c'est elle qui a pris un bon, si vous voulez, ce travers, puisqu'on a accolé à l'islam l'idée que la polygamie soit constitutive de la foi du musulman. Ce n'est pas le cas du tout. Parce que même dans le courant, il nous est permis d'avoir quatre femmes, mais il est préférable aux yeux de Dieu de n'en avoir qu'une. Il est préférable aux yeux de Dieu de n'en avoir qu'une. C'est-à-dire, moi je prétends que le courant est plus pour, si vous voulez, plus pour la monogamie que pour la polygamie. Et encore faut-il, évidemment, lire le verset correctement, le lire en entier, déjà, et le lire correctement.
Voilà, donc, grâce à vous, je découvre que l'expression « croissance fertile » peut avoir un sens auquel je n'avais jamais pensé. Bon,
je suis très attiré par ce
que vous avez dit. Vous trop grand et de sa lecture. Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt ici d'une relecture? C'est-à-dire que pour trouver dans le courant autre chose que les directions sur lesquelles certains leaders d'opinion dans le monde musulman insistent, il faut faire un effort de réforme.
Lecture, pourquoi pas lecture? Le Coran, comme tous les grands textes, doit être lu régulièrement. Et quand on il doit être lu régulièrement, comme si c'était la première fois, comme au premier jour. Et de toute façon, l'islam, si vous voulez, c'est pourquoi je suis un dictionnaire des réformateurs de musulmans des origines à nos jours, pour qu'il y ait des origines à nos jours, c'est parce que au lendemain de la mort du prophète en juin 632, et c'est bien au lendemain, c'est-à-dire fin juin 632, pour pas dire le lendemain dans notre sens chronologique du terme, il y avait déjà, si vous voulez, trois écoles de pensée pour lire le même livre. Il y a le sunnisme, le chiisme et l'islamisme. Ce sont trois écoles de pensée avec les maîtres penseurs, les maîtres de pensée, qui ont une lecture différente de celle du voisin d'à côté, du musulman voisin d'à côté. Donc on voit bien que l'islam nous a été une religion fermée, nous close sur un discours des mêmes fermés, et qu'en permanence, l'islam est une religion qui s'est remise en question, qui a été controversée, qui a accepté la controverse, qui a porté la controverse, qui a accepté la diversité philosophique, qui a introduit en son sein différentes chapelles, différentes lectures, différentes doctrines, sans qu'ils se soient trucidés les uns les autres. En revanche, ils se sont trucidés pour l'accès au pouvoir. Donc, pour des raisons humaines, ils se sont trucidés, mais pas pour des raisons divines. Le Coran est toujours devenu du reste, et les gens le disent comme ils l'entendent, étant donné que c'est un lien direct entre eux et le Créateur, et Dieu. Si je veux lire le Coran d'une manière, on va dire, par exemple, Nietzschéenne, ou Heideggerienne, ou psychanalytique, ou marxiste, ou surréaliste, parce qu'on tient qu'ils le lisent à la même façon qu'ils peuvent le lire. Je ne vois moi personnellement aucun inconvénient. À condition, c'est une très importante, qu'ils ne m'imposent pas la lecture. Donc, les fondamentalistes, Dieu merci, sont nombreux, qui restent fondamentales si ça leur chante, mais qui n'imposent pas leur lecture. Vous voyez ? De même, quelqu'un qui veut lire le Coran d'une manière tout à fait originale, moi je l'entends parfaitement, l'originalité existe dans le genre humain, mais qui n'impose pas sa lecture. Tout ce que je demande, c'est qu'on préserve la liberté de lecture et qu'il n'y ait pas de prosélytisme dans ce domaine.
Voilà une première rectification importante que la notion de réforme de l'islam court sur 13 siècles entre le 7e siècle et l'époque actuelle.
Alors, il y a cela, pour ajouter un autre élément d'appréciation, moi j'ai utilisé le mot réforme au sens de reformer, de réformer. Et donc, à un moment donné, je me suis confronté à l'idée de savoir si la réforme est toujours vertueuse ou pas. Et en effet, je me suis trouvé à court d'arguments si je devais, par exemple, décider en tant que chef que la réforme, c'est seulement dans le sens du progrès. Dans le sens du progrès, même au sens où on l'entend en Occident. Là, on se retrouve là, très vite, à court, si vous voulez, puisqu'il y a des gens qui réforment dans le sens occidental, par exemple, Atatürk, qui réforme la Turquie au début du XXe siècle dans le sens occidental, et qui combat la religion laïque évidemment, avec tout son reliquat de bondieuserie, entre guillemets. Mais pour autant, est-ce une réforme complète? Est-ce que Hassan Benna, peu de temps après Atatürk, qui crée le mouvement des frères musulmans, fait-il ou pas une réforme? Eh bien, je suis venu à l'idée que la réforme est double, il y a la réforme progressiste, c'est qui est pour l'adoption et l'application, une certaine application, une certaine accommodation de la modalité, et une réforme orthodoxe, une réforme pas forcément réactionnaire, mais conservatrice, comme par exemple la réforme de Mahamrit, au XVIIIe siècle, une vraie réforme, parce que Mahamrit Partouin n'était pas satisfait de la situation d'Islam de l'époque. Et donc, il a voulu le changer. C'est aussi une réforme, comme la réforme des frères musulmans, mais elle ne va pas dans le sens que nous considérons aujourd'hui comme étant la réforme positive. Donc, il y a deux réformes, la réforme progressiste, celle que nous aimons évidemment, et la réforme conservatrice, celle qui considère que l'islam ne doit pas bouger, c'est une religion immuable, applicable en l'état, en tout temps et en tout lieu, et voire même inchangée, y compris dans, et dans son essence et dans sa pratique.
Voilà donc les deux directions que je disais pour peu de la réforme. Parmi les 200 noms qui sont cités dans votre dictionnaire, il y en a une vingtaine qui correspondent à des personnes vivantes, et par conséquent, c'est un dictionnaire qui est lui-même en pleine actualité. J'ai eu la surprise, il y a deux jours, de voir dans Le Monde quelque chose qui concerne l'un des articles ici. On ne s'attend pas, dans un livre de l'islam, à trouver un article sur les féministes islamiques. Pardon. Il y a deux jours dans Le Monde, il y a un article là-dessus, qui est lui tel que vous avez dans votre livre, et donc en pleine actualité.
C'est pas l'article du Monde qui va suivre mon livre. Donc on comprend bien la hiérarchie.
Non, mais
ce que ça, c'est pas l'actualité du Monde qui fait le contenu du livre. C'est-à-dire que quand on parle des féministes dans le contexte musulman, elles existent depuis un siècle.
J'ai du mal à m'exprimer.
Non, mais on a bien compris, c'est moi qui suis méchant. C'est moi qui suis méchant, je me torture. Non, en effet, le féminisme, mais on ne le connaît pas. Il y a un féminisme très authentique qui milite pour l'égalité des sexes, qui milite pour l'appropriation de la parole prophétique, considérant que toute la doxa musulmane, notamment sur le plan théologique, a été préemptée par les hommes, et que ça n'arrange pas un certain nombre de points. Et donc, il y a une lecture privilégiée, si vous voulez, du corpus coranique, de la tradition religieuse, et qui veulent, non pas féminiser le Coran, mais qui est un regard féminin sur le Coran, spécifique, particulier. Et moi, je trouve ça tout à fait respectable. Et c'est pourquoi j'ai mis 18 féministes inspirées par l'islam, ou dans l'islam, dans l'image, j'ose pas dire féministes musulmanes, parce que ça les limite précisément à une relecture musulmane de l'islam. En fait, c'est une relecture tout simplement intellectuelle de l'islam, autant que la réforme de l'islam. Et quand on me dit que vous avez fait ça parce que vraiment ça plaît aujourd'hui à l'Occident, ça plaît au public qui est duel aujourd'hui, qui dit que je ne fais pas très spécialement pour plaire aux gens, c'est que ces féministes-là, si je les ai mis dans ce livre, c'est qu'elles se sont imposées à moi. C'est tellement qu'ils sont, si vous voulez, introduit dans le livre. Et de ce point de vue-là, elles n'ont rien à réclamer, rien à se reposer au fond, et elles n'ont rien à leur redire au fond, dans la manière dont elles gèrent la question de la réforme islam. Il y a même des féministes qui sont allés très loin. Amina Wadud, qui est une féministe américaine, qui a utilisé toutes les jeunes associations et tout ça pour approcher l'islam, jusqu'à la parole prophétique, à remettre en question toute une série d'anachronismes dans la parole prophétique et dans le fonctionnement de l'islam, dans l'application de l'islam, jusqu'à aller à un niveau quand même très avancé, jusqu'à créer une mosquée de femmes. Alors, donc, on dit imam, qui conduirait la prière des femmes, c'est là où la limite aussi du féminisme est quand même flagrante, c'est qu'elle dit je crée une mosquée de femmes, comme si l'islam était lié aux gens. L'islam n'a rien à voir avec le genre, ni le sexe, l'islam est une croyance, mais elle n'a aussi une autorité de mosquée que de femmes, par contre, dans le travers masculin, de ce type de masculiniser la lecture civile. Enfin, c'est quand même novateur, c'est courageux, donc je l'ai mis dans ce livre.
Il y a donc une guerre du genre, effectivement, et elle, vous avez cité les États-Unis, mais on peut aller en Indonésie, et en Malaisie, et on trouve aussi des féministes, ce genre, pardon, de ce type.
Elles ne sont pas allées jusque-là. Les féministes d'Asie, on va dire au sens de la vie, ont voulu chaque fois restituer évidemment la pertinence du regard féminin sur le corpus religieux, au sens large et au sens particulier, mais elles ne sont jamais allées jusqu'à la création de mosquées dédiées aux femmes.
Ce fragment féministe, en tout cas, existe partout. Mais à côté de gender war, la guerre des genres, il y a même de la guerre transgenre, enfin, dans la mesure où l'homosexualité est une problématique importante également.
Tout à fait. Je pense que l'islam n'échappera pas à la question, arduée et compliquée de l'homosexualité, au sens large, l'islam du plan société, pas en cadre de l'islam, hein, parce que la société au plan sociétal, évidemment, le problème était réglé depuis longtemps, puisque déjà, je me rappelle, en 1986, je fais dans un livre qui s'appelle Spetzera, j'ai fait un chapitre sur les homosexuels, dans lequel je dis que l'homosexualité est un fait arabe comme partout. Parce que, à l'époque, on disait, mais non, je ne parle pas de ça, cette maladie ne nous concerne pas, elle ne concerne que les grands. Que l'Occident, pas du monde, mais du tout. Donc je dis, vous savez, à Casablanca, vous savez, à Tunis, vous savez, en Algérie même, qui est beaucoup plus fermé à ces questions-là, vous avez des homosexuels qui se servent à la main dans la rue, qui sont maquillés, qui sont ratifiés comme ils veulent être ratifiés, et qui sont identifiés comme homosexuels sans subir les colibés qu'ils subissaient à 25 années. Dans le passé. Mais c'est un autre sujet.
Ce qui est bien avec la boca, c'est qu'on n'a pas besoin de se maquiller.
La boca elle-même est un maquillage affreux, si je puis dire. Mais de toute façon, à un moment donné, si vous voulez, comme je milite pour l'émergence de l'individu au sein de l'islam, et que la communauté est un frein, le progrès peut être un frein aussi qui limite la créativité individuelle, je dis que le combat. Mais même pas entre l'homme et la femme, il est entre la communauté et le sujet politique. Dès lors que, tant que l'islam n'a pas, si vous voulez, formalisé la question du sujet politique au sens politique du terme, c'est-à-dire un sujet libre, un sujet autopensant, un sujet qui est novateur, créatif, et qui n'a pas besoin d'un doxa pour exister, un sujet qui élit ses représentants, un sujet qui se présente aux élections, bref, un sujet politique dans toute sa plénitude, nous aurons toujours le même problème en islam. C'est-à-dire qui parle au nom de qui, quel doxa, quelle doctrine, quelle politique, sur n'importe quel sujet, il y a 36 000 avis. Et tant qu'il y a cette diversité des avis qui s'annulent mutuellement, on n'aura jamais une direction explicite ou claire concernant l'islam. Et donc je milite, non pas tellement en nos femmes de dire que le féminisme est merci prospère, mais je milite pour l'existence d'un sujet politique qui puisse être indépendant de l'instance religieuse, c'est-à-dire de ne pas dépendre de l'avis de l'imam pour faire ce qu'il doit en dire, ce qu'il nous chante, qu'on a fait, et de nous rendre compte à la personne.
Je vous dire un passage de votre dictionnaire, à la page 120, consacré à deux tas de
Oui, grand réformateur,
c'est quelques lignes qui parlent justement de la femme, et pour moi ça a été vraiment une très belle surprise. Ça date de tout temps, à peu près, parce que il est en 1924, donc disons que c'est un moment de la débat du califat en 1923 à peu près.
D'accord.
Voici la femme, ma mère, ma soeur, ma fille. C'est elle qui éveille au plus profond de mon être des émotions sacrées. Voici ma bien-aimée, mon soleil, ma lune et mon étoile. C'est elle qui m'apprend à comprendre la poésie de la vie. Comment la loi sainte pourrait-elle considérer ces créatures comme méprisables? Sûrement, les savants se sont trompés en interprétant le Coran. C'est effectivement un appel à la relecture.
Tout à fait, il n'y a pas plus clair que ça. Sûrement, les savants se sont trompés dans leur lecture du Coran. En fait, ils ne se sont pas trompés. Ils ont lu le Coran à travers leur seul corps, c'est-à-dire à travers juste leur seul regard. Et donc, ce qui nous importe aujourd'hui, dans la diversité du monde dans lequel nous vivons, c'est d'introduire au sein de l'islam une diversité d'opinions et de points de vue, plus ou moins vertueux, parce qu'évidemment, on ne peut pas tous se demander d'être toujours vertueux, toujours une idée pour l'islam. En tout cas, qui est déjà une diversité d'opinion, qui est de la controverse, qui est un débat, et que personne ne craint pour sa vie. Quand il émet une opinion qui n'est pas une opinion dominante, et bien on aura déjà fait un grand progrès.
Quelles sont les limites de cette réforme? C'est-à-dire jusqu'où on peut aller, jusqu'où est-ce qu'on peut demander de modifier le fonctionnement? Est-ce que,
à mes yeux, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est la sanction que nous donne la population et que nous donne le moment dans lequel s'inscrit cette
la phrase, l'islam, c'est nous. C'est l'individu qui décide.
L'islam, c'est nous. Et il ne faut pas laisser d'autres décider de notre islam.
Surtout pas.
D'ailleurs, c'est tout le problème dans Californie. C'est que chaque fois, on est dépouillé de nos choix. Et d'autres parleront plus. Comme, est-ce que vous croyez que l'imam Khomeini, par exemple, représente les musulmans ? Il représente combien de musulmans dans le monde ? L'imam Khomeini nous a-t-il demandé à tous, nous qui payons pour lui en quelque sorte en termes d'image, sa foi équipée d'aller détruire l'Amérique, ou même de détruire un seul Américain ou un seul citoyen du monde? Il ne nous a pas demandé notre avis. Donc, de certaine manière, il y a une triche à la base. Donc, et nous, on a accepté de se laisser dépouiller de notre islam. On ne l'a pas dit clairement au moment voulu. Non seulement, et c'est valable pour les djihadistes au Mali, c'est valable pour les djihadistes en Somalie, c'est valable pour les narcotrafiquants de par le monde.
Non seulement, la phrase islamique, c'est d'appeler à l'individualité, et vous allez plus loin en disant qu'il faut refuser toutes les décisions prises pour à notre place, mais il y a le fait que. Pardonnez-moi, je suis un peu impressionné parce que, d'une part, par l'énormité du sujet, et puis parce que ça touche au plus profond de notre relation à notre citoyenneté, notre religion, notre conviction. On est athée, par exemple, c'est une forme de conviction également. Et par conséquent, je suis un petit peu troublé par cet aspect-là. Je continue quand même avec votre aide, si vous permettez. La réforme a quand même des limites, c'est-à-dire que le Coran est quand même une base pour les musulmans.
Le Coran est une base, il y a une limite à la réforme, c'est l'extinction physique de chaque année.
C'est l'extinction.
Je ne vois pas de limite doctrinale à la réforme de l'islam. Au final, il y a un impératif. C'était un impératif pendant les siècles passés. Ça devient aujourd'hui, si je puis dire de la même façon, un impératif catégorique. Pour une raison simple, c'est qu'avant, nous étions dans une communauté liée à un territoire, liée à un espace périphérique qui identifie comme étant musulman. Aujourd'hui, nous sommes des communautés dispersées dans le monde, avec pas de territoire du tout, dans beaucoup de cas. Et quand il y a des territoires, ils sont préoccupés par des gens qui ne sont pas légitimes et qui parlent de la religion qui appartient à tous, comme si on était comme s'ils étaient légitimes. Et nous qui parlons aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui de France, nous sommes pour la première fois dans l'histoire de l'islam, depuis 14 siècles, la première minorité visible qui vit dans un univers où ils sont, si vous voulez, ils sont minoritaires par rapport à une majorité qui n'est pas musulmane. Jusqu'alors, les musulmans qui vivaient dans les territoires, ils étaient majoritairement musulmans. Donc leur parole, même s'ils n'ont pas de liberté, même s'ils ne sont pas dans des enfants légitimes, et félicités par tous, mais ils sont les plus nombreux. Si leur silence est acquis, et ils ne veulent pas que ce sens, on considère qu'ils adhèrent, même par défaut, à un projet. Or, on se trouve qu'aujourd'hui, il y a des pays où il y a une forte minorité de musulmans qui sont dans un contexte qui n'est pas majoritairement musulman. Alors que faire? Là, dans ce livre, il y a des théologiens des pays sous obédience soviétique, au temps des tsars, déjà au temps des tsars, et puis au temps de la République soviétique, qui étaient dans le même cas que nous aujourd'hui en France. On parle de la France, mais la Belgique est dans le même cas, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, etc. Eh bien, ils étaient une forte minorité de musulmans dans un espace soviétique. Ça reste le départ du tsar soviétique au temps de l'Union soviétique, où ils étaient minoritaires, si vous voulez, par le nombre. Donc la charia, qui est la loi préconisée traditionnellement par l'islam, n'est pas dans l'État. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé ce qu'ils appellent une théologie de la minorité, de façon à adapter, si vous voulez, leur islam dans les territoires non musulmans, quand il y a une forte minorité musulmane. Donc une théologie de la minorité. Cette théologie de la minorité se distingue de la théologie de cour dans les termes d'islam qui est en excès de la théologie de la majorité, donc elle n'a pas besoin d'additifs ni de qualificatifs, donc c'est la théologie de cour musulmane, c'est la charia, donc, dans le public, eh bien, ça leur a permis, par exemple, de requalifier, par exemple, les heures du jeûne. Un musulman qui se trouve au nord de la Suède, faut-il qu'il passe le ramadan au lever du jour et qu'il interrompe au coucher du soleil, voilà, dans ce cas figure, il prendrait pour 6 mois. Ou faut-il qu'il décide d'introduire, s'il y a une variable d'ajustement, qui est d'après le calcul astronomique tel qu'il est fait par sur lequel le procureur de monde. Et donc, théologie de la minorité qui dit, oui, ok, vous pouvez, dans ce cas de figure, utiliser votre montre et considérer qu'entre 8h et 18h, vous ne mangez pas, mais vous mangez après, même si le soleil est toujours visible. Alors que dans les terres musulmanes, il faut d'abord que le soleil disparaisse avant que les musulmans ne mangent. Et c'est valable pour tout le reste, pour le mariage, pour l'héritage aujourd'hui. Voilà, par exemple, une piste intéressante, sans être féministe, une piste intéressante pour les musulmans.
Les féministes utilisent beaucoup dans leur proposition de réformer complètement les lois de l'héritage.
Oui, l'héritage, le depuis 2 siècles, l'a dit. Nous trouvons aujourd'hui, par exemple, dans un cas de figure tout à fait nouveau, où dans certaines familles musulmanes, l'homme est au chômage, la femme travaille. Et la femme travaillant, elle apporte évidemment une ressource de revenus, sur le revenu pour la maison, donc c'est quelqu'un qui est facteur d'enrichissement de la famille, du coup, et on suppose qu'elle a une fille et un garçon. Et on suppose, encore des suppositions dans la question qui se repèrent à peu près dans la réalité, le garçon ne travaille pas à l'école, donc il est voué pratiquement à l'échec. Quant à la fille, elle travaille beaucoup, elle est bonne à l'école, et donc plus tard, elle sera une bonne professionnelle, etc. La femme, la maman arrive à l'âge adulte et à la retraite et au bord de la fin de vie, qu'est-ce qu'elle décide? Est-ce qu'elle décide d'appliquer les règles de la charia qui préconise que la femme hérite de la moitié qu'hérite son père, quelles que soient les conditions, juste parce qu'il est une fraction, juste parce que c'est un garçon, ou alors elle décide d'attribuer une part égale à la fille, à sa fille et à son fils. Et même si la fille est mieux qualifiée que le garçon. Moi, j'ai eu cas concret à régler avec une avocate tunisienne qui me pose exactement ce cas de figure, mais en Tunisie. En Tunisie, c'est évidemment un peu plus compliqué qu'en France, parce qu'en France, on ne s'occupe pas de ça, qui est l'héritage tout à fait équitable entre garçon et fille. Les gens n'ont pas le temps. Mais en Tunisie, c'est encore valable il y a quelques temps. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as décidé? Elle dit, je suis allé voir l'imam, et je suis tombé sur un imam intelligent qui m'a dit, tu appliques exactement un héritage équitable en garçon et fille. Exactement ce que sa conscience lui dictait. Moi, je vis dans la théologie de lumière. Parce que si vous voulez appliquer les règles, si vous voulez, de l'islam au 7e siècle, dans le contexte sociétal du 7e siècle, vous les appliquez aveuglément de manière littéraliste aujourd'hui, au 21e siècle, vous faites une multitude d'erreurs en même temps. Déjà, de revenir en arrière, c'est une erreur. Dans tous les cas, c'est de revenir à une théologie du Moyen-Âge, ou de revenir à des théologiens, même les plus grands, qui étaient valables pour leur siècle, qui ne sont plus valables pour notre siècle, ne serait-ce que sur les applications. Je ne parle pas de la doctrine, de la philosophie, évidemment. Et sur les applications, si tu n'as pas de remonter à une théologie du siècle passé, passé à la chronique, et d'appliquer leur choix au siècle qui nous concerne aujourd'hui.
Il s'agit de l'exemple de la Tsariste ou l'exemple de la Tunisie. Dans les deux cas, c'est encore une fois des décisions personnelles. Mais ces décisions personnelles, elles doivent convaincre d'autres personnes.
Oui, mais là encore, convaincre d'autres personnes. En islam, vous n'avez pas besoin de convaincre. La foi, en islam, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de pape au-dessus, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'imam et l'estraïm dans toute sa vie, il n'y a pas de jeune cardinal. Donc, en islam, vous n'avez pas besoin de convaincre. D'abord, vous vous autorisez vous-même. Pour devenir imam, vous pouvez devenir imam dans la famille, si vous avez des moyens financiers, si vous avez des capacités intellectuelles, vous n'avez pas besoin de demander à qui que ce soit le fait de devenir imam. Et inversement, en tant que citoyen, en tant que croyant, vous n'avez pas besoin de vous autoriser de quelque avis que ce soit.
Ça, sur votre conscience, c'est... Ça se rapproche d'un dit du prophète, d'un hadith, où publicité de l'opinion est une bénédiction. C'est-à-dire qu'il ne demande pas du tout l'unanimité.
Du tout, du tout. Bon, si on devait revenir au complet, on aurait fait la région la plus éclairée du monde. Ne serait-ce que sur le plan de la relation qu'il a établie avec les femmes, et avec ses amis, et avec l'argent, et avec le sexe, comme vous savez. Je le dis souvent, mais je vais vous le dire aussi. L'islam a libéré d'entrée de jeu deux grosses affaires, deux gros nœuds qui les a dénoués très vite. C'est l'argent et le sexe. Et il dit, riche vous êtes, plus riche encore, c'est mieux. Si vous êtes riche, c'est très bien, mais si vous êtes encore plus riche, c'est mieux aux yeux de l'islam. Pour deux raisons. D'abord, vous devrez mieux, sûrement. Et deuxièmement, comme on dépasse une toute petite somme symbolique de la richesse de chacun, que d'ailleurs chacun dépasse de lui-même et qu'il distribue au moins sur eux, eh bien, vous permettez à ce moment-là, vos mots, la zakat, de fonctionner correctement. Et la sexualité, plus vous honorez votre partenaire, homme et femme, la femme est également soumise à la même règle, économique sur le genre équitable à ce niveau-là, plus l'homme honore sa femme et la femme honore son homme sexuellement, plus proche du paradis ils sont. Et gagne des points, s'il vous plaît. Donc, c'est quand même pas mal.
Avant de passer la parole à la salle, qui est sûrement envie de vous interroger, je voudrais citer le glossaire. Dans ce livre, il y a un glossaire très riche, comportant une centaine d'items, qui éclaire sur des choses tout à fait importantes. Par exemple, il y a beaucoup de journalistes qui confondent sans arrêt islam et islamisme. Et bien sûr, il y a des choses plus difficiles à éclairer. Regardez le mot Hurriya. Hurriya, comment on le dit correctement ? Voilà, la liberté. Le commentaire que vous en faites est le suivant. Elle est vue comme un prérequis à toute réforme de l'islam. On n'abandonne pas le sujet central. C'est avec raison que Shah Ali Sheikh, en 1946, que le maître Alain Gali et son disciple Abdou, deux personnages absolument extraordinaires, qui font des entrées tout à fait intéressantes de votre dictionnaire, Alain Gali et Abdou, attribuaient la décadence du monde musulman à la suppression d'une liberté qui jadis le permis d'édifier cette belle civilisation héritée des Grecs, de l'enrichir, puis de la transmettre à tout le monde. Autrement dit, il y a une condition nécessaire, la liberté.
Le mot réforme, la réforme même au sein de l'islam au XVIIIe siècle, s'est posé comme l'antidote de la captation que le groupe avait fait de l'islam à ce moment-là. Ce sont des intellectuels, souvent des érudits, franciciens, syriens, turcs, libanais, et même certains érudits chrétiens qui ont participé à la réforme de l'islam. Et même, il y en a un, même au moins un juif qui s'est converti à l'islam, qui a fait un travail inimaginable en tant que musulman. Il était devenu le conseiller du roi Ibn Saoud de l'époque. Il est allé en Afghanistan, il a participé plus tard à la constitution du Pakistan, il est devenu l'ambassadeur du Pakistan aux États-Unis. Quand le Pakistan s'est séparé en 1947 de l'Union indienne. Et donc, on voit bien que cette réforme est irriguée par toute une série de personnalités exemplaires qui toutes ont milité pour le désenclavement de l'islam, pour l'affranchissement de l'islam en tant que tout par rapport aux empires belliqueux de l'époque et par rapport à toute tentative d'obscurcissement et de dénaturation en quelque sorte de l'islam.
Voilà, il y a parmi vous plusieurs personnes qui ont, à la télévision ou autrement, dans les journaux, entendu ou lu des paroles du même genre d'ouverture. Elles sont parfois signées d'un homme qui figure dans notre bibliographie. Une bibliographie absolument extraordinaire, de 50 pages, d'à peu près 600 références universitaires. Et une fois, vous citez quelqu'un dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, surtout à propos des polémiques avec, mettons, Caroline Fourest, les résultats du travail. J'aimerais savoir si quelles sont vos réactions vis-à-vis de l'approche libérale que nous propose Malek Chebel, ces possibilités de changer l'islam pour le meilleur en fonction de l'actualité et de votre ressenti personnel.
Un mot sur la question, elle est conséquente, mais elle est nécessaire. Pour une raison simple, c'est qu'il ne faut pas que les gens croient que j'invente une réforme qui n'existe pas. Et donc je donne tous les arguments, toutes les références. Je ne dis pas un mot, ni une phrase sans que ce soit référencé dans l'histoire qui selon un auteur. Et tous ces auteurs sont très importants parce que je ne suis que le dernier maillon, si vous voulez, de la chaîne, et des centaines d'intellectuels ont plaidé à la réforme de l'islam dans tous les pays et sous différentes formes. Il y a donc des intellectuels, il y a des théologiens, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des voyageurs, il y a des grammaires, des lettrés, des enseignants. Il y a toutes les catégories sociales de tous les pays, tous ont eu à cœur de se mettre en danger, de se mettre vraiment en danger, certains ont payé leur vie, pour réformer l'islam, un aspect ou une totalité.
Et pourtant, on n'entend parler que de certaines directions.
Oui, mais parce qu'il y a une volonté derrière. On peut en parler, il y a une volonté délibérée de ne présenter que le côté obscur de l'islam, ce qui rentre.